Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Au sommaire de cette émission, nous avons rendez-vous avec Cédric Fievé, pilote originaire d'Orchy. Cette année, Cédric repart à la conquête du titre du championnat de Superbike de Belgique avec un missile, et oui, on peut dire un missile, la BMW S1000RR. Bonjour Cédric.
Bonjour l'ami, bonjour tout le monde.
Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment une machine qui marche très fort, cette fameuse BM.
Oui, tout à fait. Oui. En plus, ils ont fait une belle mise à jour sur cette moto cette année. Ouais. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose.
Alors, on dit tu repars à la conquête du titre parce que tu as été en 2012, hein, tu as été champion de Belgique Superbike Junior.
Oui, tout à fait. Oui. Donc, j'aimerais bien passer le cap au-dessus, c'est-à-dire être champion de Superbike Belgique en catégorie inter.
Voilà. Et aussi, 2013-2014, tu as continué ce championnat.
Oui.
Tu as fait le championnat, mais avec des petits problèmes, disons, de
manager. Je dirais que 2013,
de manager,
c'est... Voilà. Bah, 2013, c'est bien passé parce qu'on a été en écurie donc Ducati. Et après, on a re-signé pour 2014, qui a été un petit peu plus difficile, je dirais.
Donc là, tu repars avec une nouvelle équipe, un nouveau team.
Oui, tout à fait. Donc le Star Team Racing avec BMW Arras, donc sur la S1000.
Donc avec des moyens.
Comment ?
Avec des gros moyens peut-être ?
Avec des moyens identiques, donc c'est déjà des beaux moyens pour du semi-professionnel. Donc je pense que voilà, il y a de quoi faire quoi.
On va dire bonjour à Marjorie aussi, hein, qui est la présidente du team.
Bonjour
Team Racing. Bonjour. Le team, on en parlera tout à l'heure. Le menu de cette émission, c'est avec Nicolas Poiret.
Bonjour.
Bonjour Nicolas. On va parler donc des journées test, hein, MotoGP qui se sont déroulées en début du mois, là, il y a la semaine dernière.
En début de mois, ouais, pour le MotoGP.
C'était en Malaisie, sur le circuit de Sepang.
Oui. Donc ça s'est pas mal passé, 3 jours. Et puis après, il y a eu en Moto 2 et en Moto 3, il y a eu à Valence. Et là, il n'y a eu qu'une journée d'utilisable parce qu'il n'y a plus tout le temps autrement. Donc,
tout de suite, elle est. Ça donne quoi, en gros, là, tout de suite est-ce qu'il ressent un ressenti tout de suite?
Ben
un gros pourpoint là.
En MotoGP, les forces en présence se resserrent, on dirait.
Ouais. Tu crois que finalement, ce sera quand même un peu plus exaltant le championnat 2015.
Ben, si on raisonne uniquement en matériel, donc les constructeurs, Honda, Yamaha et Ducati se rapprochent.
Très bien, ben, on verra ça dans cette émission. La programmation. Bonjour Christine, c'est pour les Info Club.
Oui, bonjour.
Et puis, on vous rappelle que la programmation musicale est signée Laurent Rodier. Cédric Fievé, un passionné de sport mécanique, c'est notre invité aujourd'hui avec Marjorie, c'est sa femme, bien sûr. Bonjour, rebonjour, voilà.
Rebonjour.
Voilà, donc tu es originaire d'Orchy.
Oui. Oui,
et vous avez décidé de partir vivre dans la cité des moines, donc c'est Marchienne.
Oui, tout à fait, à Marchienne.
Parce que cité des moines, parce qu'à l'époque, au 13e, il y avait une abbaye.
Au
14e,
oui.
Je ne sais plus quand.
Oui, oui.
Voilà. Et là, c'est un choix, parce qu'un choix naturel pour un sportif de haut niveau.
Oui.
Parce que ça te permet de faire du sport,
oui,
du
coup, voilà,
faire
en pleine,
du VTT,
en pleine campagne,
faire plein d'activités sportives.
Voilà, tout à fait, parce que bon, il y a la campagne juste autour et la forêt de Marchienne qu'il y a autour, la voie verte, donc on peut vraiment s'épanouir énormément avec pour faire du sport, du vélo, du VTT, voilà, et la course à pied, il y a tout ce qu'il faut. Et
l'entraînement, c'est tous les jours ou le week-end?
Je dirais 3 fois par semaine, plus le dimanche matin du VTT avec les amis, avec le team manager qui vient nous booster
même
un peu.
Le team manager qui vient aussi te réveiller.
Ah, oui.
C'est pas le moment. C'est pas parce qu'on est dimanche qu'il faut dormir.
Mais quelque part,
midi.
Il vient me réveiller de temps en temps. Il me dit oh là là, il est trop tard, il faut y aller là.
Ah, c'est sérieux cette année alors, hein.
Ah oui, non, il faut.
Là, vous allez commencer.
La préparation physique, c'est hyper important, autant que la préparation mentale. Donc, il faut.
Donc, Marchienne, c'est impeccable pour un sportif de haut niveau.
Oui,
voilà,
tout à
très
fait.
Bien.
Oui.
Voilà. Et c'est incroyable, c'est que tu as obtenu le permis à 18 ans.
Oui, hein, permis moto, oui.
Et tu t'es dit, finalement, la route,
je dirais que
c'est risqué.
Voilà, c'est dangereux.
C'est dangereux, la route, de rouler en moto sur les routes, c'est dangereux. Pour toi, c'est dangereux.
Voilà.
Et tu as décidé de partir dans la compétition.
Voilà. Mais j'ai débuté simplement en journée FFM à Croix-en-Ternois, à Saint-Paul. C'était une journée FFM à 25 euros. Ma femme me disait « Non, non, t'as pas le droit, faut pas y aller. » Et puis pour finir, bon, bien gentille comme elle est, elle me dit « Allez, vas-y, on verra un petit peu. » Puis j'ai pris du plaisir tout de suite.
Ah oui, les portes ouvertes, là.
Voilà,
portes ouvertes.
Et ça, c'est super. Ouais. Vraiment super pour les débutants, c'est hyper encadré.
Et c'était quelle machine?
Avec une GSX-R1000 2007. Toute neuve, elle venait de sortir.
Tu t'es rendu aux portes ouvertes là, comme ça?
Voilà, bah ouais. Ça se prépare quand même en amont. Hein,
t'étais venu avec par la route ou avec.
Non, bah j'avais.
Sur une remorque, la moto sur la remorque.
Oui, oui, non, j'avais parti donc avec la route, par la route, parce que c'était une moto de route. J'avais pas du tout équipé vu que c'était juste une initiation. Hein. Et j'ai pris du plaisir parce que bon, voilà, et tous les risques sont mis de côté. On roule tous dans le même sens, pas de plaque d'égout, pas de bande blanche. Pas de flic non plus, quelque part. Et puis, bah, donc voilà, quand on a pris du plaisir, et puis bah, après, on est parti, quoi.
D'accord. Donc, à partir de là, tu t'es dit, tiens, non, maintenant, c'est la piste que je veux faire.
Voilà.
C'est du circuit.
Voilà.
Bon, c'est un véritable tournant, une révélation. Hein. Tes premiers résultats sont exceptionnels. L'occasion du Grand Prix d'endurance de Spa-Francorchamps, en Belgique.
Oui. On a commencé par là. On a commencé par là. Bon, voilà, c'était super. Rouler aux 6 heures de Spa pour l'une des premières compétitions, c'est inné. Donc, bon, voilà. Et puis, ça s'est très bien passé. Ah,
tu t'es mesuré là, à l'élite de la moto et tu termines à une place plus qu'honorable.
Oui. On était dans les 15 premiers. Et il faut imaginer qu'en ce temps-là, il y avait toute la préparation des compétiteurs qui font le 24 heures du Mans. Et ils venaient aussi aux 6 heures de Spa.
Donc, c'était vraiment des pilotes chevronnés quand même. Hein,
c'est pas... je peux vous croire que quand ils vous passaient dans le rayon, ou dans Blanchimon, ça vous faisait tout drôle.
Donc ça, c'était en 2009.
Oui, c'est
2009.
Ça. C'est ça. Et après, bon, on a continué un petit peu en faisant des petites endurances en France avec la coupe au 3Z. Et ensuite, j'ai roulé pour le team officiel BMW France pour la Coupe de France Promo Sport. Et donc là, ça a commencé. Et donc là, on s'est fait repérer. Et donc, je suis parti en Belgique.
Donc, tout s'enchaîne très vite. Hein.
Oui, tout à fait.
Tu vas décrocher la licence internationale. Enfin, tu vas devoir passer ton...
Le CASM.
Le CASM pour pouvoir rouler sur les pistes. Voilà.
Voilà.
Tu deviens pilote, donc, on l'a dit, hein, du team BM France. Hein.
Oui.
Voilà. En 2012, la moto qui t'est confiée te permet de réaliser une belle performance. Au championnat de Belgique de Superbike, tu forcément une belle performance parce que tu termines premier du catégorie junior.
Voilà, c'est ça. Donc là, c'était vraiment une superbe année, que ce soit pour mon team et pour l'écurie qui me sponsorisait. Et donc c'était vraiment une révélation. Et d'ailleurs, Ducati sont venus nous chercher pour honorer le 2013 et 2014.
Tu vas changer de team et tu vas changer aussi de marque et de machine.
Voilà, tout à fait. Donc le team il reste. C'est-à-dire qu'on...
Et pourquoi tu vas changer? Parce que
Qu'en fait, BMW, à ce moment-là, ils avaient fait leur promo de leur S1000RR. Donc clairement, elle se vendait très très bien et ils voulaient arrêter un petit peu la promo de cette moto-là. Donc du coup, la Panigale venait de sortir. Donc ils recherchaient un team pour faire pas mal de communication et donc ils nous ont proposé un contrat de 2 ans qu'on a tout de suite accepté.
Très bien, donc tu pars avec le team Ducati Belgium.
Oui. Hein, on était officiel West Europe, c'est-à-dire qu'on était les seuls officiels Ducati.
Avec une 1199 Panigale.
Oui. Oui.
Voilà, et puis après tu vas avoir des petits problèmes en 2014.
Voilà, c'est ça. Non, en 2014, on a eu des petits soucis.
Tu pourras peut-être pas terminer la saison.
Voilà, c'est des soucis internes, hein. C'est plus des soucis financiers pour la marque. Mais bon, voilà, on 2015, on se relève.
Très bien. Donc, effectivement, donc, dans le summer, je dis que tu repars pour la conquête du
oui.
titre.
Oui. Surmotivé.
Avec une bonne machine, un bon team.
Oui, oui, oui.
Un sponsor qui t'entraîne,
oui.
justement.
Oui, oui. Surmotivé avec pas mal de sponsors qui nous suivent, justement. Par rapport à 2014, ils se sont dit, c'est pas normal. Ok, on va. 2015, on va les aider, les suraider, si je peux me permettre. pour essayer de les évaluer pour 2015 et donc le team BMW la concession BMW Arras veut nous aider, Maxxess Moto pareil Arras, c'est d'ailleurs sa femme que je fais un petit coucou, veut nous aider aussi, enfin voilà, on a pas mal de personnes qui veulent nous aider pour 2015 et je pense que j'aimerais bien faire quelque chose.
Très bien, écoute, je te propose, on va passer un morceau de musique et après on parlera de cette fameuse moto, la BMW S1000RR.
D'accord.
Ouais, notre invité aujourd'hui, Cédric Fievé, qui a pris un engagement là pour le Superbike, en Belgique, le championnat Superbike belge. Et donc, on va parler de cette fameuse moto BMW S1000RR. Donc, une moto qui fait un peu plus de 220 chevaux, je crois, moins de 200 kilos.
Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, pratiquement au-dessus d'un cheval, un cheval de kilo.
Ça s'appelle la HP4, hein.
Oui, c'est ça. En fait, l'HP4, c'est un modèle donc, évolué de la S1000RR. Donc avec du carbone, avec de la ligne titane et avec pas mal d'électronique qui aide au pilotage.
Très bien. Alors justement, on parlait de ces fameuses électroniques. Ouais. Parle-nous un peu de tout ce qui, tout ce qui peut aider le pilote à piloter cette machine.
Bon, en premier lieu, il y a l'ABS. Donc maintenant, ils ont mis l'ABS Pro, c'est-à-dire que ça fonctionne sur l'angle.
Il y a l'ABS sur les machines de...
Ah oui. Donc bon,
de piste.
On peut le supprimer. Mais quand la piste est humide ou un peu abrasive comme à Chimay, on essaie de le laisser par sécurité. Et l'innovation de cette technologie d'ABS, c'est l'ABS Pro. Donc sur l'angle, ça fonctionne maintenant. Donc avant,
ça
fonctionnait en linéaire.
Ça te permet de freiner quand t'es dans une courbe.
Oui.
Et justement, il faut éviter de freiner dans une courbe.
Et éviter le blocage de la roue avant.
Éviter le blocage, oui.
Voilà, c'est ça. Donc après, il y a aussi l'anti-patinage.
Donc ça veut dire que tu peux rentrer plus vite dans un virage et même si tu as...
Et freiner plus tard, surtout.
Freiner plus tard,
On repousse le point de freinage ça nous permet...
Si tu es un petit peu trop optimiste, tu peux freiner un petit peu plus fort, quoi.
Voilà. Donc... Il faut se mettre en tête que ça n'enlève pas le pilotage du pilote. Faut savoir que l'ABS, mais si on appuie énormément sur le frein, il va quand même arriver un problème sur l'angle, quoi. Faut pas non plus l'oublier.
Parce que l'ABS, c'est pas non plus.
Puis l'ABS, on l'entend, ça se déclenche.
Ah oui,
donc
tout à fait, on le sent sur la main. Oui,
donc ça vient perturber le pilotage. Du coup,
justement,
ça fait des à-coups.
Justement, avec l'ABS Pro, ça atténue la sensation de dribbling au niveau du frein, au niveau de la main. Et donc ça permet de piloter quand même convenablement, quoi. Et donc après, comme je disais, il y a l'anti-patinage. Donc l'anti-patinage, ça c'est une révolution aussi, parce que bon, ça n'existe déjà depuis longtemps. Mais là, avec la BMW, ça, donc, le calculateur calcule l'angle pris, l'accélérateur, donc au niveau de la poignée des gaz, donc ça prend aussi les informations en termes de pourcentage. Et ça prend aussi, donc ça calcule les vitesses de roue avant et roue arrière. Donc s'il y a quelque part, admettons la roue arrière patine, hop, ça déclenche, ça baisse en premier lieu le couple de la moto. Et si vraiment ça glisse de trop, ça baisse complètement la puissance. Donc voilà, c'est des grosses évolutions pour cette moto-là. Et donc après, il y a l'anti-wheeling.
Ça veut dire qu'en sortie de courbe, tu peux remettre au taquet et ça fait le reste.
Voilà, c'est ça.
C'est le but.
Alors, il ne faut pas oublier aussi que si on met trop d'antipatinage, la moto n'accélère plus. C'est-à-dire s'il y a une micro-glisse, automatiquement, la moto, elle arrête d'accélérer. Donc, c'est une perte de temps.
Mais le réglage se fait par qui ? Par le pilote ou au départ par un ordinateur
À l'origine, ça se fait par ordinateur. C'est pour ça qu'on fait des tests, on fait des ronds, on tourne autour du circuit, on fait des réglages. Et on peut peaufiner sur la moto.
En route.
En roulant, on peut peaufiner.
En disant ça se déclenche un peu trop tôt, là j'ai retardé.
On peut mettre jusqu'à moins 7 et plus 7. Donc ça c'est du peaufinement par rapport au réglage qu'on a fait avant.
Le ressenti c'est quoi ? C'est quand t'accélères, ça patine ou...
Un peu comme une voiture, je sais pas si vous avez...
Ça se débloque.
Vous imaginez votre roue arrière qui glisse. Hop, avant que vous vous dites que la moto glisse. L'antipatinage arrête d'accélérer. Donc c'est ça qui est important. Le tout c'est de se dire de se mettre en confiance par rapport à ça. Et surtout de pas trop en mettre, sinon comme je vous ai dit tout à l'heure, vous perdez automatiquement du temps et de la puissance. Et donc du coup on essaie de trouver un feeling entre la glisse et l'antipatinage qui se met en route.
Mais ça change la façon de piloter. Parce que avant, à la poignée de gaz, on a le poignet qui retourne tout doucement pour sentir justement la limite de la glisse.
Oui.
Là, ce feeling-là, on ne l'a plus, puisqu'on met au taquet et on sent la moto qui le fait.
Justement, c'est ça, c'est qu'il faut trouver le bon compromis entre la glisse et l'antipatinage. C'est-à-dire que si on a trouvé, mettons, sur tel virage, sur tel circuit, la bonne glisse en sortie de virage, donc le bon réglage antipatinage, là, ça permet de sortir beaucoup plus rapidement. Donc de redresser la moto, la moto se remet vers le petit bout droit qui est après, et donc automatiquement ça permet d'aller plus vite. Oui. Mais là, ça, il faut arriver à régler par rapport au grip de.
On voit les pilotes en sortie de courbe qui font glisser la roue arrière. Donc ça le permet pas ça.
Tout à fait. Donc c'est l'antipatinage qui se met en route. Vous pouvez voir Pedrosa je ne sais plus en quelle année, il y a eu un problème sur le capteur arrière de roue arrière.
Oui, c'est fait en rentrant dedans par. Du coup, il a fait un slide aussi sec.
Voilà, tout de suite. Donc il faut savoir qu'en MotoGP, eux, ils voient c'est ils accélèrent, ils redressent la moto et l'antipatinage fait le reste. Donc ils se servent de ça pour aller beaucoup plus vite. Et nous, c'est ce qu'on recherche un peu, avec nos moyens, parce qu'on n'a pas les moyens du MotoGP, bien sûr.
Oui, bien sûr. Je te propose de passer un morceau de musique. On reviendra un petit peu sur les performances de cette machine.
D'accord.
Puis tous ces systèmes électroniques maintenant sur ces motos là, qui nous paraissent nous, Nico, on est de la vieille, on ne sait même plus comment ça marche. C'est clair.
Avec plaisir.
Notre invité aujourd'hui, Cédric Fievé, hein, qui parle à la conquête, à la reconquête du titre de championnat de Superbike de Belgique. Une question, Cédric, sur cette moto BMW S1000RR, le kick, il est où? C'était la question de Laurent, hein, durant le morceau de musique.
J'y connais pas grand-chose.
Il n'y a plus de kick.
On a 80 ans de retard.
Dommage.
Non, par respect, pour les motos anciennes. Ouais. Oui, non, par respect pour les motos anciennes, le kick, c'était très important avant, mais puis maintenant, ça n'existe plus. Mais par contre, il y a pas mal de choses qui se rajoutent encore par rapport au, donc il y a l'antipatin que j'ai parlé, il y a l'ABS.
Dis-moi un peu là, le launch control.
Oui, donc
qu'est-ce que c'est que ce bazar?
Le launch control, c'est une aide au départ.
Ouais. Donc ça te donne
c'est le kick en fait.
Ça te fait sortir du peloton plus vite que les autres parce que c'est le booster en fait.
Voilà, c'est ça.
Un petit peu le rétrofusé. Ouais, mais pas sur 5 secondes, quoi.
Non. Donc, ça permet d'avoir le plus possible de puissance au sol lors de départ arrêté, lors d'un départ de course. Donc, ça régule automatiquement la puissance. Dès que la roue avant se lève, hop, ça baisse un petit peu la puissance, ça rajoute. Enfin, c'est vraiment.
Ah, c'est vachement compliqué parce qu'au départ, booste au départ, mais en plus, on te fait un système pour éviter de patiner.
Oui.
Donc c'est l'inverse de ce qu'on. Ces deux systèmes qui sont à l'inverse.
Ah, c'est ça. De toute façon, ils mettent 200 chevaux, puis après, ils mettent un truc pour que ça patine.
c'est complètement bête, ça.
Pour baisser la puissance.
Alors, on te met un booster au départ, et on te met des trucs pour éviter de patiner tout ça.
Justement, faut imaginer avec 200 chevaux, c'est pratiquement impossible d'accélérer, de prendre la poignée d'accélérateur, la mettre à 100%,
et de lâcher
l'embrayage, à zéro, quoi.
Alors, au départ, qu'est-ce que tu peux faire?
Ce qu'on fait simplement, c'est qu'on fait patiner un petit peu l'embrayage, on accélère, puis dès que le départ est enclenché,
on lâche
l'embrayage tout doucement et on accélère à fond. Et là, la moto, elle régule.
T'es poigné au taquet.
Ah oui, et puis la moto régule.
Hein. Voilà.
Donc, on passe à la deuxième, la troisième. Voilà. Le launch control, dès du moment que vous avez passé la troisième, se déclenche, s'arrête. Et là, c'est parti.
Donc, ça, sur les deux premiers rapports?
Les deux ou trois premiers rapports, oui.
D'accord. Et donc, tu lâches l'embrayage à fond?
Ah, une fois que la moto
est
partie sur 2-3 mètres, hop, là vous pouvez lâcher complètement.
Et on accélère à fond et on fait, le machin il fait le reste.
Et la caractéristique des motos qui ont ça, vous entendez, ça fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, comme ça, ça fait un
bruit. Ça pète, un moteur mal réglé.
Les coupures d'allumage pour réguler la puissance.
Tout dépend des motos, il y en a c'est des coupures d'allumage, il y en a c'est des coupures d'injection. Voilà.
D'accord.
Donc... c'est aussi une aide pour les départs arrêtés qui est très très importante pour quelqu'un qui fait de la compétition, bien sûr.
Bientôt, il va plus falloir de pilotes sur les motos.
Ouais, des pilotes
au chômage.
Des pilotes auto.
Tout est automatique. Hein. Le machin, il part tout seul. Dans les virages, t'accélères comme un ouf, ça régule.
Tu vas être spectateur, tu vas voir passer la moto tout seul.
Elle marche bien, la moto.
Moi, j'appelle seulement ça l'évolution. Vous mettez une moto d'il y a 30 ans à côté. Et cette moto-là,
on pourrait faire deux heures d'émission sur ce problème-là.
Ouais.
Parce qu'on n'est pas d'accord, nous.
Ça fait un peu peur.
Surtout si on rajoute de l'électrique. Si on rajoute de l'électrique, c'est explosif.
C'est une batterie.
C'est vrai. Non, mais je peux comprendre. Moi, je respecte aussi les motos anciennes parce que s'il n'y aurait pas eu les motos anciennes, on n'aurait pas arrivé là.
Non, mais le truc, c'est que. Est-ce que finalement tout le monde pourrait piloter ces motos finalement alors maintenant est-ce qu'il faut encore vraiment être bon pilote pour piloter les machines?
On le dit bien, si on comme là c'est
avec
pareil,
tous ces systèmes électroniques,
c'est comme l'antipatinage, la miche. Si le launch control est mal réglé, vous allez faire que des wheeling reposés, puis tous les copains à côté ils sont passés. Hein. Donc c'est pareil, faut passer du temps pour régler tout ça. Ouais.
Donc en fait le pilote maintenant il règle.
Et voilà, c'est ça. Même avant.
Il règle tout l'électronique et après
il règle. Voilà. Denis est un régleur en fait, le pilote.
Faut un ingénieur pour toi, ça c'est certain.
Ce que ça doit faire, ça doit rapprocher les niveaux. C'est-à-dire que avant il y avait un excellent pilote qui arrivait à avoir ce feeling là. Maintenant ça rend ce feeling-là accessible à plus de personnes.
Oui, mais c'est pareil. Comme je dis, l'antipatinage, l'ABS, l'inch control, ça n'enlèvera pas le grand pilotage du grand pilote. C'est pas possible.
De toute façon, on voit MotoGP, les meilleurs restent les meilleurs.
Si tout le monde l'a.
Mais par contre, ça rend les choses plus accessibles. C'est-à-dire qu'avant, les gens ils étaient à 50 secondes des autres et maintenant, ça se rapproche.
Non, moi je pense pas. Je pense juste que les temps autour du circuit, ils évoluent. C'est-à-dire qu'avant, mettons à Croix-Internoise, c'était 59 ou une minute. Maintenant, on passe la barre des 54, 55. C'est-à-dire qu'on va plus vite. ça permet d'aller plus vite. Maintenant, ça n'enlève pas le pilotage du pilote. C'est-à-dire que si le pilote est au-dessus et que tout le monde a la même moto, bah, lui, il sera au-dessus parce qu'il est meilleur, parce qu'il y a un don. Et ça n'enlève pas cet aspect-là.
Bon,
On continue sur l'électronique.
On va parler de l'ESA. L'ESA, hein, tu sais, maintenant on parle plus de biel, de piston, on parle de trucs, de l'ESA, de lunch, de machin.
Ouais.
C'est ça qui est dommage, Nico. Hein, tu vois, il y avait l'échappement, tu mettais des gros, plus grosses soupapes. Maintenant on parle de l'ESA. Vous savez pas ce que c'est que l'ESA.
L'ESA, c'est.
On va en parler après le morceau de musique. Ouais, là, tu sais, c'est compliqué, l'ESA. Voilà, Cédric Fievé, on repart donc sur cette moto BMW S1000RR. Alors donc, on va parler de l'ESA. Alors, mais l'ESA, c'est un truc spatial, ça, non? C'est pas un truc qui envoie des fusées dans l'espace, Nico? Je crois bien que si.
Non, c'est la NASA.
Non, mais l'ESA aussi. L'ESA, c'est l'Europe et la NASA, c'est américain.
Voilà, c'est ça.
Mais non. Sur les BM, c'est pas du tout ça.
Non, ESA, c'est lui qui régule les suspensions électroniques.
Voilà.
Donc on a
comment ça marche? Tu peux régler la suspension en roulant?
Voilà. Ouais, donc ça peut, on peut le faire. Mais là, je dis bien, cette suspension électronique fonctionne très bien pour quelqu'un qui fait de la piste occasionnellement ou qui roule sur la route. Mais nous, en compétition, on le supprime. On le supprime pour mettre des traditionnels de la marque Collins ou alors EMC. D'ailleurs, je fais un petit coucou à mon sponsor EMC pour la suspension arrière. Donc tout se fait à la main. Ça, c'est très important. Ah oui, parce
que là,
bon
là, sur les documents que j'ai, c'est, en fait, c'est, l'avantage de l'ESA, c'est de BMW, c'est qu'en fait, on peut laisser les tournevis à la maison. Il n'y a plus besoin de. Par contre, il faut un ordinateur.
Ouais, ou alors il faut savoir bien toucher, je dirais, au niveau du tableau de bord. Tout se fait au tableau de bord, hein, sur la HP4. La personne lambda avec un peu d'entraînement peut le faire facilement.
Ouais, le problème de l'ESA, c'est que c'est de l'électronique qui est collée sur les amortisseurs maison de BMW. Si tu changes d'amortisseur, t'as plus l'ESA.
Donc, voilà, t'as plus l'ESA. Voilà.
Si tu veux des bons amortisseurs pour faire de la piste, il y a quelques marques qui sortent du lot et qui sont vraiment au-dessus du lot. Donc t'as besoin de cette endurance-là. Donc tu pars, tu sautes, tu n'as plus besoin du système, quoi, puisque tu ne peux plus l'avoir.
Il faudrait que tu me parles aussi du shifter pro, là.
Oui, alors, bon.
Parce que déjà, le shifter pas pro... attends. Parce que tu sais, là, on parle de truc, mais peut-être que les auditeurs, ils se disent, mais qu'est-ce que tu parles de moto,
faut
là, quoi.
La
non,
vie,
non,
là.
Le shifter, c'est déjà,
faut
c'est un système pour éviter de... Quand tu embrayes, ça passe à vitesse automatiquement. C'est un truc qui marche avec du gaz, un truc comme ça. Hein.
Non.
Le shifter.
Ça t'empêche, t'as plus besoin d'appuyer sur
le levier. Le sélecteur.
Ouais, voilà.
Hein, voilà.
T'appuies plus dessus.
Le shifter, c'est ça.
Moi, non, c'est pas ça.
C'est pas ça.
Je suis désolé.
Ça passe pas à la vitesse.
Si, mais il faut bien appuyer sur le sélecteur.
Mais tu touches plus à l'embrayage.
On touche plus par contre.
Ah, c'est l'inverse. Voilà. Ah, on touche plus à l'embrayage.
Voilà.
Alors tout simplement.
Explique-nous comment ça marche, parce que quand tu passes une vitesse sans débrayer ou embrayer.
Ça débraye pour toi en fait.
Ah, ça débraye pour toi.
Même
d'accord.
Même pas.
Pour monter, pas besoin.
Alors je vais vous expliquer simplement. C'est-à-dire que vous imaginez, vous êtes sur un bout droit, vous êtes en deuxième, vous voulez passer à la troisième. Vous appuyez simplement avec votre pied pour passer votre vitesse. Il y a un petit capteur sur cette tige de sélecteur de vitesse qui capte automatiquement que vous voulez passer une vitesse. Le calculateur dit hop, il va passer une vitesse. Je coupe l'allumage ou je coupe l'injection selon les motos. Et là. La vitesse passe facilement parce que regardez quelqu'un que les anciennes motos vous passez à la volée, vous passez quand même
sans toucher à l'embrayage.
Voilà, mais vous décélérez
un petit peu,
vous coupez l'accélérateur. Oui, bah là, c'est l'électronique qui le fait.
Pour être regardé,
ça marche pas. Pour monter.
Hein. Le shifter standard ne fonctionne pas pour le rétrograde.
Ah, mais le pro.
Par contre, maintenant l'innovation de BMW.
Non.
C'est-à-dire que sur sur le shifter pro,
on peut être
en train d'halluciner les anciens. Sur le shifter pro, vous pouvez rétrograder sans toucher à l'embrayage, juste en vous positionnant et freiner. Et vous passez votre vitesse antérieure. Voilà. Donc toujours pareil.
Donc ça
y a un
permet
capteur.
De passer les, on passe les vitesses supérieures ou inférieures.
Voilà.
Donc en gros, l'embrayage, on peut l'enlever parce qu'il ne sert plus à démarrer.
Si,
pour passer les vitesses, il n'y en a plus besoin. Il y a des trucs en trop, là, il faut virer.
Bon, après, tout dépend de la cinématique du circuit. Sur les petits virages très, très serrés, on va devoir se servir quand même de l'embrayage sur les... Voilà. Mais voilà, c'est aussi un capteur. Donc automatiquement, le calculateur détecte que vous voulez passer une vitesse antérieure. Ça monte le régime moteur. Et automatiquement, votre vitesse descend. Ça marche super bien.
On a fait le tour des trucs, là. Lunch.
Ouais, on en a encore.
Il y a peut-être
encore.
Encore maintenant, j'ai fait ma liste, là, mais j'ai peut-être pas fait...
Je rajoute deux petites choses,
maintenant.
Elle
n'est pas complète, cette liste.
Non, mais il y en a pas mal.
Anti-wheeling.
Alors, il y a l'anti-wheeling, automatiquement. Ouais. Il y a aussi, sur le tableau de bord, l'angle d'inclinaison que vous prenez en temps réel sur tel et tel virage. Il y a aussi...
Pour faire comme à télé.
Voilà. Donc, vous voyez, en temps réel, que vous avez pris, je sais pas, 40 ou 35
sur
degrés.
Sur l'écran de tableau de bord.
Tout à fait. Il y a le shift light aussi.
Et ça, ça aide, tu crois, de savoir l'angle que tu prends.
Parce que quand il va 70, il dit, tiens, je suis par terre.
c'est 90. Non, mais ça permet de prendre des données.
Ouais.
Donc acquisition de données. Donc une fois qu'on a arrêté de
ah oui, quand tu rentres au stand, tu mets ça dans
la
mémoire d'ordinateur et puis te dis, et après tu analyses.
Voilà. Et là, on passe une demi-heure.
Deux Japonais derrière qui.
Non, tu te trompes, c'est BMW.
C'est des Allemands quand même.
C'est pas des Japonais là, Nicolas.
Et donc ça, il y a aussi dès la vue du moment qu'on prend les freins. Donc on prend des G négatifs automatiquement et hop, il y a une graduation sur le tableau de bord aussi, comme quoi
au freinage.
Autant de puissance, de freinage, voilà.
Combien de calories dépensées.
Et là on en revient au début de l'émission dans la forêt de Marchienne, hein, Cédric qui court, qui se dit je fais du sport.
Je veux pas que l'acquisition de données dise que c'est de ma faute, parce que quelque part c'est un mouchard pour le pilote. Hein.
Oui, alors
On peut pas dire.
On pourrait effectivement en parler, dire que finalement, après ton team manager,
il dit. Boîte noire, quoi.
Voilà, c'est la boîte noire, et il dit t'as vu un petit peu à l'heure où tu rentres dans ce virage.
On peut dire, moi,
tu peux prendre 15 bornes de plus. Bon,
quelque voilà, part, avant, le pilote pouvait dire oh, la moto va pas,
ou la moto,
le circuit, machin. Ouais. Ah, non, non.
Maintenant, c'est fini.
L'acquisition de données dit. Enfin, dis vraiment la vérité, dis voilà, ok, c'est toi, ok, c'est la moto, ok, c'est le circuit.
C'est le patron. Mais là, on peut pas ton patron, il te dit, t'as mal fait le boulot là.
Voilà. Alors, l'intelligence ça, de ça, c'est d'essayer de pas prendre un ingénieur et que le pilote s'occupe de ça, comme ça au moins il dit ce qu'il veut.
Très bien, mais écoute, on a terminé avec cette fameuse moto et puis tous ces systèmes électroniques. Nous, on est un peu dépassés, Nico. Là, un peu dans
c'est l'évolution, là, c'est l'évolution.
Non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Mais c'est la technologie MotoGP carrément mis. Comme un immortel, c'est dingue.
Ouais, c'est vrai. Voilà.
Ça vaut combien ce petit truc?
Alors là, en standard, on a 17 000, 18 000 euros. Plus après, il faut les options. Le Shifter Pro, c'est une option. Enfin voilà, il faut rajouter quelques.
Ça, c'est le modèle pour faire
euros
de la piste, hein, pour faire voilà, s'engager sur un championnat.
GBM, ils aiment bien les options. Hein.
Ouais, bah oui, bon, bah, voilà, c'est le prestige, hein, de toute façon. Ouais. Voilà, donc je pense que. Allez. Aux alentours de 20 000 euros, vous avez une moto très compétitive et une moto qui peut rouler
sur
circuit
occasionnellement. On peut monter sur la troisième marche du podium. Troisième. Quatrième, cinquième.
Nous, il faut vous dire qu'on va prendre la moto clairement à 20 000 euros. On va devoir rajouter la moitié du prix de la moto pour, admettons, pour les suspensions, pour le carénage, parce qu'on vire le carénage, on met un carénage poli pour pouvoir le réparer ou au cas où. Et les pneumatiques, les jantes à côté. Enfin, il y a pas mal de choses qui viennent se greffer pour protéger la moto et pour aussi la mettre en compétition.
Très bien. Bon, bah, ça c'était pour la BM, hein, la moto. Normalement, ça marche, hein, ça roule ce truc-là.
Je confirme, ça marche.
Ouais. Ça marche. Après le morceau de musique, on parlera des manches. Il y a dimanche.
Il y a samedi.
Il y a 10 circuits. donc ça va commencer le 11 et 12 avril à Croix-en-Ternois. Bah là c'est en France, hein. Oui, bien qu'on parle du championnat de Belgique quand même, mais bon, le nord de la France, la Belgique. Hein,
d'ailleurs,
gros,
je t'invite personnellement, la Michel. Oui, t'as intérêt de venir.
Je vais venir. Oui, et donc après, on parlera des. Après, vous partez aussi en Hollande, hein.
Oui.
Des circuits. Hein. On passe le morceau de musique, on revient sur la saison.
Ok. Voilà. Last time you sat down and had dinner with your kids, talked about what's going on in their lives. Hey, when was the last time you just stopped and helped somebody out? I bet you can't remember. What a lot of people are saying, we're changing for the better, but that don't interest me. I wanna get up Sunday morning and go fishing with my boy. Watch the sunset kick back in my yard. Take my Harley on a real long lazy Sunday drive and do a little more nothing once in a while. Yeah, maybe kick my feet up, watch an old rerun on TV.
Voilà, retour avec Cédric Fievé sur la piste pour le championnat de Superbike de Belgique, hein, 2015, hein, qui repart, donc qui va chasser le titre. Hein, déjà, je rappelle, en 2012, hein, premier donc dans ce championnat, en junior, hein, attention, en junior.
Oui.
Cette fois-ci, là, c'était passé la catégorie au-dessus maintenant.
Hein. Oui.
Voilà, on va parler de, donc, des circuits.
Hein. Justement, cette catégorie, là, il y a donc une catégorie junior, c'est on roule avec les autres ou...
On roule avec les autres, oui. Ouais. Et la catégorie junior, c'est pas parce qu'on est junior, on est petit, ou enfin, on est jeune ou nouveau. C'est, enfin, si, quelque part, parce qu'en fait, la première année en championnat de Superbike Belgique, on passe obligatoirement par la catégorie junior.
Donc, c'est des rookies, en fait.
Voilà, c'est ça. Ah. C'est ça. C'est que malgré que j'ai fait de la compétition en France ou pas mal d'endurance, il faut que je passe par la catégorie junior. Et en 2012, on a eu pas mal de grands pilotes qui étaient en catégorie junior, donc j'ai dû me bagarrer énormément pour avoir le titre quand même.
Donc tu l'as bien mérité.
Ah oui, non. Avec toute l'équipe, on a fait un travail énorme sur cette moto et cette année-là. Et d'ailleurs, je tiens à remercier aussi tous mes deux mécanos, parce que bon, sans eux, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Mais en 2012, oui, on a eu de la concurrence, ouais, c'est certain. Ouais.
Donc il y a une catégorie Superbike et Supersport, comme un petit peu comme partout en Europe.
Alors Supersport, c'est les 600.
Les 600, et voilà.
Ouais. Et Superbike, les 1000.
Les 1000, et voilà. Puis les bicylindres plus...
Voilà. Et dans les 1000, il y a les juniors et les inter.
D'accord. Donc, et vous êtes combien?
On peut aller de 30 à 40 pilotes sur la piste.
D'accord. Ouais, donc ça reste raisonnable.
Il y a de quoi faire. On a des grands pilotes comme Sébastien Le Graël cette année qui a signé justement pour aussi BMW. Donc lui a fait le MotoGP à une certaine année. Et on avait roulé aussi avec Grégory Fastré qui a fait le championnat de Superbike, championnat d'endurance pardon, mondial, et qui l'a gagné en Superstock en 2013 il me semble, je ne sais plus trop. Donc on a des bons pilotes et ça permet de bien s'amuser avec eux. Quoi.
Très bien, avant d'énumérer ces 10 circuits là, dimanche,
ouais.
Hein,
ouais.
Pas dimanche, voilà. il existe en France aussi un championnat hein, de Superbike.
Oui.
L'avantage, c'est ici dans la région, les circuits donc en Belgique sont plus près.
Oui.
Hein, quand on regarde le championnat français, il faut aller là-bas à Albi, dans le sud. Et c'est peut-être moins, renommé le championnat français que le championnat belge, non ?
Non. Le niveau championnat français et le niveau, je dirais, hollandais. Je dirais il y a un super niveau en France, le FSBK est la bonne antichambre pour arriver en Europe après. Mais moi le gros problème que j'ai eu c'est que je pouvais pas honorer les 6 courses ou 5 courses dans le bas de la France, quoi, c'est pas possible. Et puis faut imaginer le sponsor qui nous aide dans le nord de la France, véhiculer sa marque dans le bas de la France, ça lui apporte pas grand chose. Donc
et pourtant c'est des beaux circuits.
Ah oui, non, ouais. Les deux noms, c'est un super circuit, ouais. Albi, Nougaro, tout ça, c'est des super circuits.
Parce que là, on va parler des circuits en Belgique, il y en a certains, je dis pas que c'est pas des beaux circuits,
non,
mais il faut avoir...
Beaucoup d'imagination pour savoir que c'est un circuit.
Oui, Nico. Ouais,
c'est... bien
ouais.
Bon, on commence.
Ouais,
Donc, Croix-Ternois, 11-12 avril, c'est l'ouverture de la saison. Voilà. Là. Donc Croix-Ternois, tout le monde connaît, ici dans la région, hein.
Ouais.
70 bornes de Lille. Ouais. Après, on part au Hollande, Angelo, là, c'est pas...
C'est une course sur route qui se fait donc en ville aussi. Moi, je crois pas que je vais prendre partie de cette course-là cette année parce que
c'est touriste office.
C'est quelque part ça. Et aussi, il faut imaginer que nous, on fait le championnat de Superbike Belgique, mais les Hollandais viennent se greffer à nous. Donc, on a des points pour le championnat de Belgique et il y a des points accumulés pour aussi le championnat de.
Donc, Hollande, il roule avec vous.
Oui, tout à fait. Donc, faut voir. Hein, les Hollandais, eux, ils mettent le pied dedans. Ils ont un niveau énorme. Ils ont financièrement le pouvoir de le faire. Ils ont. C'est autre chose, quoi. C'est autre chose.
Au niveau électronique, il n'y a pas de détecteur de ballots de paille, alors.
C'est disparu du gâchis de mettre des motos comme ça avec une telle complexité technique, avec de l'électronique sur des circuits encore finalement avec des ballots de paille, comme t'as raison Nico.
Ouais, ouais mais ça, c'est au contraire, c'est ça sécurise le pilote.
C'est du gaspillage.
Ça sécurise le pilote. Quelqu'un qui a de l'électronique sur sa moto, quand il fait les courses de route, il augmente un peu plus pour être en sécurité. Regardez le Tourist Trophy, c'est des choses identiquement pareilles, hein, je veux dire, c'est pareil de ce qu'on fait. On va regarder, on fait chimer. C'est pareil le Tourist Trophy, sauf que le Tour fait autant de kilomètres. Nous, il fait 3 kilomètres, là-bas, c'est 10 fois ça. Quoi. Donc, les gens, ils adorent ça. Donc c'est pour ça qu'ils continuent de garder les courses de route. Donc,
ah, c'est spectaculaire, c'est vrai que c'est autre chose. Oui. Mais par contre, c'est autre chose, c'est plus du circuit.
Voilà. Alors, il faut choisir. C'est-à-dire que moi, en tant que pilote piste fermée, comme mettons Crans-Ternois ou Spa-Francorchamps, je dirais, moi, j'adore ces circuits-là. Maintenant, les circuits routiers, ils sont un peu difficiles à appréhender. Moi, j'ai du mal, mais je peux comprendre si l'engouement que les autres pilotes. Qu'ils aiment rouler sur ces pistes-là. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas obliger le mec qui fait le championnat de Belgique à rouler à Chimay ou à Ostende. Là, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire tout le championnat fait les courses de route obligatoirement pour ne pas perdre de points. Sinon, automatiquement, on perd des points et on ne peut pas être champion.
On va passer tout de suite parce que on va aller vite parce que là,
on discute.
Tu parles beaucoup, Cédric.
Excuse-moi.
Je regarde le temps, je suis effaré de voir le compteur.
Il est quand même invité, c'est un peu normal qu'il parle.
C'est ma passion qui me rattrape.
À ce point-là, c'est inimaginable. Donc, on passe toujours. La troisième manche sera le 24 et 25 mai à Oss, en Hollande.
Oui,
toujours
pareil.
Pas du tout, un circuit aussi.
Toujours pareil en Hollande.
Après, 30 et 31 mai à Mété.
C'est
Belgique, ça, c'est un circuit.
C'est pareil, c'est ici à côté, une heure de route.
Après, il y a Ostende. Alors là, c'est pareil, à Ostende, c'est. C'est pas un circuit. Hein,
c'est sur la
ville.
C'est au bord de la plage.
C'est le port.
C'est des ponts-levis.
Et là, des ponts-levis et tout. Hein. Et s'il y a du vent, attention. Hein.
Mais c'est pareil. Pour les spectateurs, c'est hyper impressionnant. Pour le pilote,
Alors après, 11-12 juillet à Zolder. Bon, ça, c'est un circuit, hein, Zolder.
Oui.
Voilà. Par contre, alors, ce qui me paraît vraiment incroyable, c'est que la manche n'ait pas été supprimée. C'est Chimay.
Ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé en 2014 à l'Open Trophy? Incroyable que ce circuit encore pour la moto ancienne peut-être mais pour vos machines qui passent les 220 chevaux
il y a eu
eu 4 morts donc à l'Open et c'est remis au goût du jour.
Je peux pas parler pour les organisateurs mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais je peux comprendre aussi les autres. Donc
c'est Chimay. Donc
ils n'ont pas beaucoup d'alternatives. Hein. Ils n'ont pas de circuit, donc
ils n'ont pas de circuit ici quand même. Ils peuvent en faire 9 ou 10. Hein, moi, je pense que pour les motos modernes, Chimay, c'est un peu limite quand même.
C'est clair.
Hein. Mais Chimay, c'est pas évident. Il y en a beaucoup qui adorent. Moi, je suis pas partisan de ça, mais comme je dis encore, je peux comprendre les autres pilotes. C'est un circuit belge. Il a toujours existé, c'est mythique, restera toujours pour la Belgique. Ça ramène énormément de monde. Hein,
on allait au Grand Prix des Frontières, tu sais. On allait voir Jago Agostini, c'est Coteau, on allait voir Phil Reed, Lancivioli, tout ça. Hein, et Finlay, on allait voir. Et à l'époque, on pouvait rentrer dans le paddock, mécaniquer sous une tente. Voilà.
Mais la Belgique veut garder ça.
Ils veulent conserver ça.
Je comprends.
Bon, après, Spa-Francorchamps, ce sera les 8 et 9 août.
Oui. Donc là, à cette date-là, on fait les 6 heures de spa, le 6 heures de spa du samedi et du dimanche, le superbike.
On va terminer avec, on part en Hollande à Zandvoort. Zandvoort, je prononce
bien. Donc ça, c'est un circuit routier. Piste.
Un circuit piste.
Pas routier.
Et ensuite, Assen, cathédrale. Hein, là, c'est un beau circuit. Hein.
Oui.
Là, c'est un
le circuit du GP.
Voilà, très bien. Bon, ça, c'est les 10 circuits dimanche pour le 2015, pour le championnat de superbike belge.
Bon, puis il faut venir.
Oui, il faut venir. Écoute,
j'invite tout le monde. J'ai besoin de supporters.
Voilà. On va passer à un morceau de musique. Et ensuite, on parlera du fan club, parce qu'il faut, il te faut te soutenir. Il faut qu'on parle de toi. Il faut qu'on trouve un peu d'argent aussi pour. Ça coûte cher tout ça.
C'est gentil. We'll be right back.
Bon, c'est vrai qu'il tout ça, il faut de l'argent, il faut monter un team, un star team racing, ça s'appelle comme ça.
Oui.
La présidente, c'est Marjorie.
Oui.
Marjorie, c'est ta femme.
Et c'est ma femme.
Rebonjour, ça fait trois fois que je te dis bonjour.
Rebonjour.
Il vaut mieux dire bonjour plusieurs fois, tu sais.
Voilà.
Parce que quand on le dit pas, ça peut, après, il y a des problèmes. Voilà, donc alors, dis-nous un petit peu ce team, star team racing. Donc, explique-nous comment ça marche, comment ça fonctionne.
Alors, pour le fan.
Oui.
Alors on fait, on demande 10 euros pour le fan club. Donc vous aurez le droit à une course venir en VIP. Après vous avez le droit à 20% à la concession. Après vous aurez le droit à participer au grand tirage au sort qui aura le droit en fin d'année. Donc le premier prix, ça sera pour gagner la combinaison de Cédric.
Tu vas te retrouver à poil, Cédric, qui était au courant.
Je sais pas. Courant.
La dernière course, allez hop, on les habille.
C'est pas moi qui ai eu l'idée en plus.
Là, c'est moi.
Elle est gonflée, Marjorie, parce que ouais, en fait, finalement, tu vas offrir ta combine.
C'est pas une petite combinaison, hein. C'est une combinaison high-tech de chez Ixon. Enfin, voilà, on dit pas de marque, non. Mais ouais, bon, bah voilà.
C'est la bonne combine, quoi. C'est la combine.
Et puis ça me fait plaisir d'aider un fan. Voilà, ça revient du cœur.
Voilà. Et puis alors, il y a un drone aussi à gagner. Je sais pas,
oui, voilà.
C'est pour suivre les circuits, peut-être le pilote autour du
circuit.
Peut-être.
Voilà,
ce serait une bonne idée. Voilà.
Et donc voilà, et puis après, surtout aussi pour le petit soutien pour Cédric, hein, pour l'aider pour sa saison. Donc je remercie déjà les pas mal de personnes qui ont déjà participé justement à ça.
Donc ça marche comment? Donc si on participe, on donne 10 euros ou plus, hein,
ça dépend. Hein, moi j'ai eu
50,
plus,
100,
voilà.
200. On vient sur le circuit, on peut venir au stand voir Cédric.
On boit un petit café.
On boit un petit café, on mange un petit gâteau, tous ensemble.
On discute, on voit un petit peu la machine, on discute avec les mécanos.
Les
ingénieurs.
On remplit un petit bord d'euro.
On a un badge, une carte de membre.
Voilà, vous remplirez une fiche d'inscription, tout ça, et après vous avez votre petite carte membre, et vous pouvez venir sur les circuits, on VIP tout ça. Et après, les gens qui ne peuvent pas se déplacer peuvent nous envoyer un chèque à l'ordre du Star Team Racing au 44 rue du Clos à Marchienne.
Et avec un numéro de téléphone.
Voilà, avec leur numéro de téléphone, bien sûr.
Avec leur,
et le nôtre.
Et votre alors.
Donc 06.
C'est une Marjorie.
06 45 46
Qu'à faire.
20
attends,
je suis
notre
attends,
pas, hein,
attends, 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 on parlait tous en même temps.
Donc le 06 45 46 20 31.
Voilà, ça c'est pour participer, donner un petit coup de main. Donc,
un grand merci
à Cédric. Voilà. Hein, et puis et tirage au sort, peut-être que vous allez pouvoir gagner sa combine. Une combine, surtout à mon avis, la combine professionnelle
la valeur,
de pilote, c'est pas pour rien.
Ouais, la valeur c'est 700 euros.
Ouais.
Donc, c'est pas rien.
Bon, si vous donnez 10 euros et vous gagnez la combine à Cédric.
Et même pour le pilote ou le roller lambda, 20% sur l'accessoire.
En plus,
c'est-à-dire
chez votre sponsor,
chez le sponsor de
Cédric et de Marjorie.
Oui, tout au long de l'année, 20% sur l'accessoire.
T'as vite fait de regagner tes 10 euros.
Sur une paire de gants, vous l'avez déjà gagné.
Bah
donc,
oui.
Voilà.
Un petit coup de main pour notre.
Je ne peux pas en dire plus.
Notre ami d'origine d'Orchy, pilote. Voilà.
C'est bien gentil.
C'est vrai qu'on va quitter un peu le championnat Superbike belge.
Oui.
Et on va partir à Sepang, en Malaisie, sur le circuit de Sepang, ah, comme je viens de dire.
Avec plaisir.
Il y a eu des tests, tu le sais. Oui. Je suppose que tu suis quand même l'activité
oui, oui,
sportive.
Bah oui.
Et c'est notre ami Nicolas Poirot qui va nous faire une petite rétro là, sur ces deux journées de test. Hein.
Ouais, donc on reste sur la compétition, on reste sur l'électronique, on reste sur les MotoGP. Donc effectivement, il y a eu trois jours de test pour les MotoGP à Sepang, en Malaisie, les 5, 6 et 7 février, donc c'était il y a 15 jours. Et puis il y a eu parallèlement, pour le Moto2 et le Moto3, des tests à Valence la semaine dernière. Et il y en aura d'autres la semaine prochaine à Jerez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces tests et pourquoi on fait tous ces tests? Il faut savoir que les MotoGP, d'abord, il y a quasiment un nouveau modèle. On repasse d'une feuille blanche quasiment tous les ans. Donc, il faut essayer tout ça pour voir si c'est mieux. Et puis, le règlement Factory interdit le développement moteur pendant la saison. C'est-à-dire que tout se passe pendant les tests. Donc, c'est très important, les tests. Et Marquez et Pedrosa devaient essayer trois motos pour ces tests. Ils devaient essayer la moto 2014, qu'ils connaissent bien, en guise de comparaison. Une moto qui leur avait été faite juste après, qui avait été donnée comme étant la nouvelle moto 2015. Juste après le dernier Grand Prix de la saison, ils avaient eu une série de tests et ils n'avaient pas aimé du tout cette moto. D'ailleurs, Marquez avait fait son meilleur temps sur l'ancienne. Et donc, une moto intermédiaire que Honda a pondue entre deux pour voir si ça résolvait les problèmes. Et donc, dans la foulée, en essayant les trois motos, ils ont pris le modèle intermédiaire. Et ils se sont bien habitués avec ce modèle-là et qu'ils veulent encore faire évoluer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé également? Alors, c'était assez intéressant parce que c'était en trois jours. Les deux premiers jours, Marquez et Pedrosa se sont attachés à choisir une moto, la faire évoluer, à travailler. Donc, ils n'ont pas fait de temps. Donc, les Yamaha étaient en pointe. Hein, Rossi et Lorenzo pétaient les fiches de temps. Et du coup, Rossi s'est dit, cette année, je sens bien, c'est ma 20e saison, je sens bien 10e titre. Les Yamaha vont bien, on est en forme, les Honda, ils cafouillent un peu, ils bricolent. Je crois que c'est l'année de mon 10e titre. Donc, c'est Rossi qui a dit ça.
Est-ce que ça a une grande valeur quand même, ces journées test? Ça veut dire quelque chose?
Ça veut dire vraiment quelque chose, parce que c'est la première fois où on peut voir si les motos sont proches. À chaque fois, la hiérarchie s'est confirmée en cours de saison, hein, dans ces journées test. Donc, c'est intéressant quand même. Et puis, ça montre le travail de l'hiver. Donc en fait, si on regarde le résultat le dernier jour, là Marquez il s'est craché dans les mains, Pedrosa aussi, et Marquez a explosé le record de la piste de Sepang en étant sous les 1 minute 58, donc 1 minute 58.8. Donc ça c'était la première fois. Et quand on creuse un petit peu, parce qu'il faut tout voir là-dedans, faire un temps sur un tour, c'est une chose. Mais après, il y a ce qu'on appelle les simulations de course, c'est-à-dire qu'ils enchaînent les tours sans changer de pneus. Hein, autrement, c'est vraiment, on regarde les feuilles de temps, c'est vraiment, on change les pneus, on fait deux tours, on change les pneus, on fait deux tours, c'est vraiment que ça. Et on change un réglage, on fait deux tours. Il y a vraiment que ça. Mais là, ils ont fait une simulation de course, donc une vingtaine de tours d'affilée sans changer les pneus. Et là, si on regarde ça, on s'aperçoit que c'est ça qui est important pour comme témoin. On s'aperçoit que Pedrosa est devant Marquez. Donc il est toujours là, Pedro. Hein. Et Yannone et Dovizioso Ducati se sont bien rapprochés. Et que Rossi et Lorenzo sont quasiment dans les mêmes temps que Marquez. Donc ça veut dire que ça va être très relevé. Alors au niveau de Ducati, c'est vrai qu'ils se rapprochent. Mais Ducati pourtant n'avait que l'ancienne moto, une évolution de l'ancienne moto. Ils n'ont pas encore essayé leur moto 2015. Ils appellent ça GP14 pour celle de 2014. Donc c'était GP14.3, donc l'évolution 3 de la moto 2014. Donc ils roulent avec ça. Et ils ont réussi à rejoindre le haut du tableau. Mais il faut savoir que Ducati a le droit à des pneus extra soft. Ils n'ont pas droit à les autres écuries. Donc grâce à ça, ils arrivent à faire illusion. Mais comme on l'a vu par le passé, sur la durée d'un Grand Prix, ça va au début, ça va plus après. Hein. Donc l'avantage qu'ils ont en pneus permet de les rapprocher. Donc c'est sûr qu'ils ont ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Et autrement, ce qui était intéressant de voir, c'était qu'il y avait Alex Espargaro qui découvrait la Suzuki avec Maverick Vinales, qui lui est un rookie. Hein. Donc la Suzuki, elle est pas si mal, parce qu'on disait qu'elle était pas dans le coup. Ils ont fait le 10e temps. Pour une première apparition d'une moto en MotoGP, c'est pas si mal. Hein, 10e temps, et Maverick Vinales, 12e temps, c'est ce qui est pas mal du tout. Lui, il découvre à la fois le MotoGP et la moto. Et donc c'est pas mauvais. Tous les deux disent que le châssis est super, mais qu'elle manque beaucoup de puissance. Donc une fois qu'il y aura la puissance, ça ira mieux. Ils ont baissé beaucoup la puissance parce qu'ils n'avaient pas de fiabilité. Donc bon, ça va. Elle a besoin encore de développement, cette moto. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir ce qu'allait faire Carl Crutchlow, hein, parce que lui il change de moto tous les ans. Il a fait Ducati. Après il était sur la Yamaha Forward, et cette année donc il retrouve une Honda dans le Team LCR, et c'est pas fameux, hein. il a beaucoup de mal, il a fait le 11e temps, des temps pas fameux, il a eu beaucoup de mal. Et après il y a une dernière marque qui aborde maintenant officiellement le championnat du monde en MotoGP, c'était Aprilia, et là c'est pas fameux, hein. Melandri il a fait le dernier temps, Bautista il s'est débattu. À la fin de ces essais, ils ont fait un briefing et Aprilia parle de faire carrément une autre moto pour l'année prochaine, mais de bricoler encore cette année. Il faut savoir que par exemple les carters moteurs de l'Aprilia de MotoGP sont les mêmes que l'Aprilia de Superbike et sont les mêmes que la moto de route.
Ah oui.
Donc
faut pas le faire ça, Cédric.
Je sais pas si ça va fonctionner ça.
C'est vrai que c'est une moto qui est pas.
En MotoGP, il faut du développement. Hein,
voilà, c'est ça, sûr. Ouais. Donc c'était un petit peu mitigé. Mac Di Meglio, lui, découvre la Ducati. Hein. L'an dernier, il avait une Kawasaki qui marchait pas. Cette année. Il a l'air content de sa. Bon, il a la version de base, hein. Il a la version de l'an dernier de la Ducati. Bon, il a fini au 22e temps, et c'est moyen, mais bon, il va découvrir. Et la bonne surprise aussi, c'est Loris Baz. Donc, Loris Baz qui vient du Superbike.
Le français.
Français, voilà. Et donc, lui, il a récupéré la moto d'Espargaro, hein, une Ducati, enfin, une Yamaha Forward. Et il fait mieux que par exemple Jacques Miller, qui lui aussi découvre la catégorie. Hein, Jacques Miller, lui, il vient directement du Moto 3, donc la marche était vraiment haute entre Moto 3 et Moto GP. Hein, on comprend pas trop d'ailleurs qu'il ait pas fait au moins une année en Moto 2. Et par contre, Loris Baz, il s'est pas trop mal habitué, et donc il a l'air confiant. Il y avait toute une polémique sur sa grande taille qui faisait qu'il n'était pas capable de rouler là-dessus. Donc voilà, on va faire une petite pause.
Ouais, j'ai vu que Dani Pedrosa qui court après le titre depuis au moins 10 ans,
hein, oui.
C'est vraiment le pouli d'or lui.
Exactement, oui.
Il va changer de chef mécanicien.
Oui.
Pour essayer de se rebooster. Pour le rebooster un peu. Ouais. Parce qu'un chef mécanicien, Cédric, ça sert à.
C'est important.
Justement, à te rebooster.
Oui, c'est important.
Il te stimule.
Puis ça donne des nouvelles idées, surtout pour le pilote, des nouvelles technologies. Enfin voilà, ça met du renouveau à l'équipe.
Ouais. De toute façon, Pedrosa, il a le niveau. Le problème, c'est que en MotoGP, il faut être très rapide dès le départ. Et puis donc, lui, peut-être avec son poids, il a peut-être un handicap là-dessus. Et puis au niveau agressivité aussi.
Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Mais c'est bien dommage pour lui parce qu'il mérite.
Il mérite, ouais, complètement. Ouais. Ouais. Il a le niveau.
Voilà, avec impatience, nous attendons les infos club.
Oui, parce qu'en plus, il fait...
Elle est décidée à, donner, à nous donner quelques petites infos club. Bah Christine, oui. Il est temps, hein, parce que, écoute, franchement, ça fait une heure et demie
presque. On attendait que ça.
Hein
bah oui, avec
le Cédric.
On attendait que ça, moi.
Bon, alors, vous me laissez parler,
c'est bien. On va te laisser parler.
Bon, donc, c'est vrai qu'avec le beau temps, bah, ça donne envie d'aller rouler. Et je vous propose pour le week-end prochain d'aller à la bourse d'échange véhicules anciens, auto, moto, poids lourd, deux roues, agricoles, pièces détachées, enfin voilà, tout, plein de choses. Donc c'est le club calaisien qui organise cette manifestation. C'est à la salle polyvalente, avenue de Nordkerk à Audruic. Donc vous pouvez contacter Eric Bancard au 06 70 01 34 24 et vous retrouvez cette info dans notre fameux calendrier page 10 et si vous ne l'avez pas vous pouvez sur notre site
le télécharger,
merci. Donc une autre petite info, hein, hier s'est déroulé le challenge départemental Casque d'Or. Donc je rappelle, c'est organisé par la coordination sécurité routière de la préfecture du Pas-de-Calais et des acteurs de la sécurité routière dans le département. Donc c'est juste un challenge qui se compose de 3 épreuves ludiques ouvertes aux deux roues motorisées, 20 au total à partir de 125 cm3. Donc hier première sortie. Donc les dates, vous les retrouverez sur le calendrier page 11 et donc la prochaine c'est le 14 mars à Saint-Omer.
Voilà, on retourne avec Nico, on va parler moto 2, moto 3 et là, fait exceptionnel, hein, on risque d'avoir peut-être au moins un champion du monde ou deux français.
Alors
cette
année.
Effectivement,
deux pilotes de pointe dans chaque catégorie qui sont capables de gagner le championnat. C'est vrai que ça n'arrive pas à chaque fois.
C'est rare, ouais, ça fait longtemps.
Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Je reviens juste une seconde sur le MotoGP pour dire que effectivement Donington, qui était prévu comme pour accueillir le Grand Prix d'Angleterre, ça sera finalement Silverstone comme d'habitude. Hein, donc on change.
Oui, alors il faut changer sur le calendrier. Hein, si vous avez le calendrier, faut pas vous fier au calendrier. Enfin, il faut vous fier au calendrier, mais pas pour cette date-là.
Faut pas aller à Donington.
Donc vous allez surtout pas à Donington, vous allez à Silverstone parce que c'est pas du tout le même endroit.
Non.
Vous allez faire des bornes en plus, ouais. Et vous risquez même de pas voir la course. Donc surtout, donc vous corrigez.
Ça serait dommage.
c'est pas de la faute du calendrier, hein, c'est non. Parce que les organisateurs
ont changé
comme ça au dernier moment, et parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a un circuit qui se construit au Pays de Galles.
Au Pays de Galles, c'était prévu, donc le circuit a pris du retard, donc en fait ils ont proposé Donington à la place, donc c'est ce qu'on a marqué dans notre calendrier.
Voilà.
Et puis MotoGP, le staff est allé voir le circuit de Donington, ils ont dit bah non, c'est pas capable d'accueillir le Grand Prix, donc on reste à Silverstone.
Et puis il y a un gros problème avec ce circuit au Pays de Galles, parce que ce sera plus le Grand Prix d'Angleterre, ce sera le Grand Prix du Pays de Galles.
Voilà,
donc les Anglais, vous savez comment ils sont, les Anglais.
Politiquement, il y a des bâtons dans les roues.
Donc ça, ce sera encore à suivre.
Voilà. Et sinon, les prochains tests en MotoGP, ça sera le 23 février, toujours à Sepang. Hein, et juste avant le Grand Prix, le 14 mars au Qatar, il y aura également une série d'essais. Et cette année, en plus, il y a une journée où ils essayent les Michelin, parce que l'année prochaine, ils seront tous en Michelin.
Ah oui, j'ai vu ça, alors Michelin,
ouais,
oui.
Ouais. Donc, ils changeront de pneus l'année prochaine. Donc voilà. Et donc, si on vient donc sur les essais cette fois donc de Valence, donc Moto 2, Moto 3. Donc c'était la semaine dernière, hein, le 10 février. Alors là, c'est compliqué de définir un bilan, parce que il y a eu qu'un seul jour, il y a pas plus, le premier jour, et après il est tombé des trompes d'eau. Donc bon, après personne n'a roulé quasiment, ils étaient 2-3 à rouler sur la piste, donc ça veut plus rien dire. Donc, mais ce qui est sûr, c'est effectivement en Moto 3, donc un petit jeune qui vient.
Le petit arrive là. Il y a même pas encore l'âge pour rouler normalement dans cette catégorie. Hein.
Tu as raison,
il va l'avoir en cours d'année là. Enfin,
ils ont modifié le règlement pour lui, c'est-à-dire que normalement il y avait une limite d'âge pour pouvoir rouler en Moto 3. Ils ont dit on peut s'affranchir de cette limite d'âge si on a gagné deux fois le CEV, donc c'est le championnat espagnol.
Bah oui, ça fait deux fois qu'il gagne, il commence un petit peu à en avoir marre, parce qu'il se mesure toujours au même pilote et les circuits, donc il commence un petit peu à en avoir marre.
Donc
il passe un niveau supérieur.
Du coup, ils ont modifié le règlement pour lui et il arrive en GP, donc en Moto 3. Donc il a 15 ans, hein, et première fois qu'il roule en Moto 3, et premier essai de la saison avec cette moto, et il a le record du circuit. Battu. Donc il s'appelle Fabio Quartararo. Alors c'est un français, mais il parle espagnol couramment. Tous ses copains sont espagnols. Sa mère est espagnole.
Français espagnol, mais il est français.
Voilà, mais c'est un français.
C'est la deuxième Marquez.
Hein. Voilà. Et c'est vrai que tous les top pilotes sont.
Alors on pourrait dire effectivement, tu vois, tous les espagnols qui dominent pratiquement depuis
c'est terrible,
combien depuis 6 ans.
Hein. C'est le pays de la moto.
Ah, pour l'instant, c'est le pays. On parlait des Italiens avant, mais maintenant.
Parce qu'il y a beaucoup de promotions justement en sport pour les gamins, et un niveau très relevé du coup. Tout le monde va là.
Il démarre très tôt.
Ouais, voilà. Donc ce gamin, c'est vrai qu'on va le regarder. C'est vrai que j'espère qu'il n'aura pas trop de pression, parce que c'est vrai que 15 ans pour affronter un championnat du monde, c'est vraiment.
Faut pas qu'il chute.
C'est un gamin, il faut pas qu'il chute, faut pas qu'il ait trop de la pression et qu'il veuille trop bien faire dès le début. Quoi, il faut apprendre, hein, il n'y a rien à faire, il connaît pas les circuits. Hein. Danny Kent a fait aussi un très bon temps juste dans la foulée. Danny Kent qui était là depuis l'an dernier déjà, donc c'est la première année il a pris, et cette année ça a l'air de donner. Et puis on a toujours notre Alexis Masbou, hein, 12e temps, le français le plus vieux de tous les pilotes Moto 3.
Oui, mais après, il va falloir qu'il passe. On a plus le droit de rester.
Je crois qu'il va arrêter après.
Ah, il va arrêter.
Ouais. Mais donc là c'est sa dernière année, donc voilà, je pense. Et donc, à noter qu'il y a deux filles cette année en Moto 3. Deux filles. Anna Carasso et Maria Herrera.
Ah, bah, c'est la coéquipière de.
Alors, elle était coéquipière.
Fabio Quartararo.
Elle était coéquipière l'an dernier de Fabio Quartararo. Oui, voilà. Ça va être intéressant aussi de voir deux filles maintenant en Moto 3. Hein, elles se sont toujours. Il n'y a pas de championnat féminin. Elles se sont toujours affrontées avec les garçons. Donc voilà. Donc passons maintenant au Moto 2. Au Moto 2, là aussi, comme tu le disais, la Miche, on a Joan Zarco. Hein, Joan Zarco qui est notre meilleur représentant depuis des années en pilote français en MotoGP. Enfin, en catégorie MotoGP, hein, catégorie GP. Et qui a là aussi de grosses ambitions cette année. Hein, il est dans un nouveau team qui s'appelle Arrow Motorsport. C'était le team avec lequel il se sentait le mieux et il avait déjà gagné avec ce team-là. Alors, ils sont nouveaux en Moto 2, mais par contre, ils sont très performants. Ils connaissaient bien le Moto 3. Et donc, Joan Zarco, il a fait le meilleur temps et lui aussi, il a cassé le record du circuit lors de la première journée.
Et j'ai remarqué aussi qu'Alex Marquez n'a fait que le 26e temps.
Voilà, c'est pas terrible. Donc lui, il arrive en...
3 secondes de Zarco.
Ben, il arrive et découvre le Moto 2.
La Moto 2,
et
oui.
C'est beaucoup plus compliqué que pour, par exemple, Alex
Rins. On voit que c'est pas facile de passer d'une catégorie à une autre.
Non. Ouais. Et donc, cette année, ils sont quasiment tous en Calex. Hein, donc voilà. On va laisser la parole de la fin. Cédric.
La fin d'émission, Cédric.
Écoutez, je tenais vraiment à vous remercier de m'avoir accepté. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci d'avoir eu autant de paroles. Je tenais à remercier aussi tous mes sponsors, le team complet, ma femme, mes enfants, Teddy Evan, et puis surtout mes fans clubs. Voilà, c'est que
bon. Marjorie, t'as vu qu'on peut aussi, les femmes peuvent aussi faire de la compétition.
J'ai vu, hein,
c'est pas bien. Rester
faut pas exagérer
dans l'ombre
quand même, la Michelin, du
pilote. Oui, je sais, mais bon, je suis pas déjà mon âme.
En moto 3, tu peux aussi t'engager, mais bon, il va falloir passer par des.
Oui.
Fais quand même des catégories inférieures, quand même.
Fais quand même attention à ce que tu dis. Pas déconner. Non, mais des fois,
t'imagines, je prends ses sponsors et tout, je roule à sa place, alors là.
Elle roulerait plus vite que moi.
Si demain, elle te dit, moi aussi, j'ai envie de faire de la moto sur piste, qu'est-ce que tu vas dire?
Bah, je l'aiderai, tout simplement.
Bah, voilà.
Je
ferai ce qu'elle m'a fait.
Mais bon, j'ai aussi mes deux enfants, ils veulent aussi, ça y est, là, faire de la moto,
ah oui,
tout
voilà,
ça.
Ah oui, voilà, bon, avant la prochaine.
Je vais donner leur place, plutôt à eux.
Très bien, l'émission se termine. Merci Marjorie d'être venue.
Merci beaucoup.
Dans les studios de Radio Campus. Cédric, merci aussi.
Merci à vous.
Et bonne chance pour cette saison. On viendra te voir.
Je les dois.
On passera te voir.
J'espère.
Pas hésiter.
Merci Nico pour ce compte rendu des tests. Et puis nous, on a rendez-vous le 29 mars. Émission spéciale, parce que c'est l'ouverture du Grand Prix du championnat du monde de vitesse. Donc au Qatar, comme d'habitude.
Au Qatar.
De nuit.
La nuit.
De nuit. Nous, ce sera au dimanche à midi, 11h. Merci Christine pour les quelques infos clubs que tu nous as diffusées durant cette émission.
Impressionnant.
Je vais d'ailleurs faire un chèque de 10 euros pour
votre venir.
C'est super gentil. Merci pour lui.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Passez un bon dimanche et rendez-vous. À la semaine prochaine. Merci Laurent.
Au revoir.
Merci.